Alors avant de vous parler d'Édouard Levé, je voudrais remercier Madame Oberhuber de m'avoir invité à prendre part à cet atelier. Je suis très honoré d'être ici parmi vous. Alors voilà, 2 ans avant de mettre fin à ses jours, dans son autoportrait publié en 2005, Édouard Levé revenait, avec une pointe de cet humour un peu désinvolte qui caractérise son travail, sur la nature ambivalente de sa trajectoire. Bien que j'ai publié chez lui 2 livres, mon éditeur continue à me présenter comme un artiste. Si j'étais comptable, en plus d'être écrivain, je me demande s'il me présenterait comme un comptable. À la décharge de Paul Tchaïkovski-Laurence, puisque c'est de lui qu'il s'agit, il faut admettre que d'œuvre à suicide, en passant par journal et autoportrait donc, les textes d'Édouard Levé réservent à la littérature et à l'un de ses véhicules canoniques, à savoir le livre imprimé traditionnel, un sort qui justifie les réticences de l'éditeur à faire de leur auteur un écrivain. En effet, d'une part, en participant d'une forme d'écriture fragmentaire, il renouvelle et prolonge le soupçon émis par la modernité à l'encontre du concept d'œuvre, entendu comme totalité stable, génériquement identifiable et capable d'épuiser son objet. Et d'autre part, dans la mesure où ils naissent de et s'inscrivent dans un contexte où l'expérience littéraire n'en finit plus de se métisser au contact d'autres pratiques sociales et artistiques, ils invitent à reconsidérer leur étiquetage à la lueur des rapports d'extrême proximité qu'ils entretiennent avec l'art contemporain et certaines de ses déclinaisons. Parmi ces déclinaisons, il importe d'accorder à la photographie une attention toute particulière. Effectivement, après s'être consacré à la peinture de 1991-1996, Édouard Levé va concevoir entre 1998 et 2006 plusieurs séries de clichés, dont certains vont faire l'objet d'expositions saluées ça et là par une poignée de comptes rendus. En conséquence, et puisqu'il avait pour habitude de brûler ses toiles, c'est essentiellement comme photographe qu'Édouard Levé, en 2002, avec ses œuvres publiées chez POL, entre en écriture. Ainsi que le note Stéphane Girard dans la monographie qu'il vient de consacrer à Levé, celui-ci, Levé donc, fait irruption sur la scène littéraire, affublé de ce que l'analyse du discours appellerait l'éthos préalable ou l'éthos prédiscursif d'un photographe ou d'un artiste, et non d'emblée d'un écrivain. Jusqu'à sa mort en 2007, Levé s'adonnera régulièrement aux 2 activités, photographie et écriture, non sans jouer des interférences et de l'intermédialité qu'implique presque nécessairement cette pratique simultanée. Étant donné leur statut particulier de premier texte chargé d'infléchir une image de photographe en image d'auteur, étant donné également leur insistant recours au paradigme de l'image enregistrée et plus généralement du visuel, on gagera que les œuvres d'Édouard Levé mettent au point, entre l'écrit et le photographique, un nouage qui ne se donnera plus de manière aussi claire dans les textes ultérieurs. À partir de cet ouvrage, et sans toutefois s'interdire des incursions plus ponctuelles dans d'autres productions écrites signées du nom de Levé, on s'attachera, il s'agira de préciser la nature particulière du dialogue qui s'établit entre ces 2 formes d'expression hétérogène pour montrer in fine que cette hybridation participe d'une volonté d'ébranler les frontières de ce que Flaubert appelait la sacro-sainte littérature. Œuvre. D'ordinaire, ce type d'intitulé globalisant désigne à l'attention du lecteur, et je cite Genette, un rassemblement factice et purement matériel d'œuvres antérieurement publiées une à une. De fait, le plus souvent, cette appellation n'implique ni détermination de contenu, ni spécification d'ordre générique ou formel, les textes qu'elle recouvre formant un ensemble disparate d'éléments sans commune mesure. À vrai dire, la seule restriction que cette étiquette peut engager concerne le statut des écrivains dignes d'en bénéficier. En règle générale, seule une figure canonisée et pleinement reconnue par un certain nombre d'acteurs de l'institution littéraire peut prétendre aux honneurs d'une publication d'œuvres, florilège faisant office de célébration patrimoniale. Or, dans le cas des œuvres de Levé, à lire comme le fait d'un auteur méconnu publiant là son premier texte, il va sans dire que les attentes liées à ce label se trouvent déjouées. C'est même très précisément au service de cette tâche, moquer les conventions et faire obstacle aux pratiques coutumières du champ disciplinaire dans lequel il fait son entrée, que Levé met la force illocutoire de son intitulé. En définitive, et là réside sans doute toute l'ironie du rapport que cet ouvrage entretient avec son titre, Édouard Levé ne trompe personne. Effectivement, son intitulé ne s'avère mensonger qu'à le considérer à l'aune de l'usage tendanciel que l'espace littéraire en fait. C'est au-delà ou en deçà de cet usage tendanciel que les œuvres de Levé vont renouer avec la relation de fidélité qui unit un titre au contenu qu'il sert à nommer. Ainsi, le lecteur trouvera bien des œuvres dans ses œuvres. Non pas comme attendu une anthologie ou un recueil de pièces textuelles hétérogènes devant leur unité à une contiguïté spatiale et matérielle justifiée par un nom d'auteur, mais bien un catalogue, un inventaire formellement homogène, répertoriant sous la forme d'une liste de propositions verbales assorties d'un index, 533 œuvres d'art potentielles, dont certaines seront d'ailleurs réalisées. Comme pour attester cette potentialité. Installations diverses, ready-made, détournements, performances ou happenings, mise en texte contrainte, photographie, vidéo, mise en scène, exposition, bizarrerie architecturale, etc., etc. Levé semble y passer en revue l'intégralité des territoires aujourd'hui à la portée des pratiques artistiques. Bien sûr, Pascal Mougin et Stéphane Girard n'ont d'ailleurs pas manqué de le relever, l'existence exclusivement langagière de la majorité des œuvres imaginées par Levé inscrit cette tentative dans le sillage des expérimentations menées par les tenants de l'art conceptuel. En 1967, dans un manifeste publié par la revue Art Forum et intitulé « Paragraphs on Conceptual Art », l'artiste américain Sol Lewitt expose les préceptes de cette forme artistique toute particulière. Il y professe notamment la possibilité pour l'œuvre d'art d'en rester au stade de projet, contestant en cela la dignité accordée traditionnellement au produit fini comme fruit de l'expression d'une subjectivité. Alors, ce désir de museler la subjectivité, de la laisser disparaître derrière une œuvre avant tout idéale, Levé le fera sien dans une quête avouée de l'écriture blanche, qui serait la mise en texte d'une langue que n'altérerait ni la traduction ni le passage du temps, d'une langue qui ne lui serait pas propre. C'est ainsi qu'après avoir confessé dans Autoportrait toute l'admiration qu'il porte à Douglas Huebler, grand nom du conceptualisme amateur comme lui d'œuvres non créées et d'un descriptive language désaffecté, c'est ainsi donc que Levé ajoute dans Autoportrait « En poésie, je n'aime pas le travail sur la langue, j'aime les faits et les idées. Je suis plus intéressé par la neutralité et l'anonymat de la langue commune que par les tentatives des poètes de créer leur propre langue. Le compte-rendu factuel me semble être la plus belle poésie non poétique qui soit. » Bien loin de surgir du néant, les œuvres de Levé s'insèrent ainsi dans une tradition bien établie qui, de Duchamp à Ed Rucha, en passant par le groupe Art and Language, n'aura cessé de questionner en matière d'art les parts respectives de la langue et de la réalisation matérielle. Pourtant, la singularité du texte de Levé ne s'épuise pas à la seule lueur de la parenté qu'il entretient avec le conceptualisme. Effectivement, si pour Lewitt, l'idée en tant que telle peut valoir pour œuvre d'art, Levé précise bien qu'il ne souscrit pas à pareil postulat. Je le cite, « Si une œuvre dont j'ai eu l'idée a déjà été réalisée, je n'abandonne pas. L'œuvre n'est pas l'idée. L'œuvre n'est pas l'idée, car, et la philosophe allemande Anna Arendt l'a bien montré, l'idée ne saurait se faire œuvre qu'à se constituer en objet du monde, par l'entremise d'un processus de réification qui va venir l'arracher à l'indifférencié, l'arracher à l'indistinct, au limbe du non-dit et de l'irréalisé. Mais ce n'est pas tout. Levé fournit une seconde preuve de son indiscipline à l'égard de la doctrine conceptualiste en proclamant la nature foncièrement littéraire de ses œuvres. C'est à l'origine un travail littéraire, précise-t-il, à l'encontre d'une autre assertion fameuse de Lewitt, si des mots sont, je le cite, si des mots sont utilisés et qu'ils relèvent d'idées à propos de l'art, alors ces mots sont de l'art et non de la littérature. Comment comprendre la double réfutation que Levé oppose ainsi à deux des axiomes majeurs d'un courant dont, par ailleurs, il se nourrit de façon manifeste? Les œuvres et la façon dont elles viennent au lecteur apportent à cette question un élément de réponse, dans la mesure où, pensé comme objet littéraire, compilé et matérialisé minimalement dans un livre qui se dote d'un index et se constitue donc par là en outil de travail, elles infligent un démenti cinglant au fantasme idéaliste des artistes conceptuels. Nul texte ne parvient brut dans les mains de son lecteur. S'il est vrai, comme le dit Gérard Genette, que l'œuvre littéraire transcende son texte, la recherche de Proust, par exemple, existant effectivement par-delà les objets livres dans lesquels elle ne fait que résider, cette aptitude de l'œuvre littéraire à déborder ses matérialisations au gré d'une relation mouvante historiquement spécifiée n'en reste pas moins dépendante, originairement, d'une verbalisation valant pour mise au monde d'une idée ou d'un complexe d'idées. En d'autres termes, la condition transcendante de l'œuvre littéraire, entité immatérielle ouverte aux aléas du sens et des interprétations, est fonction d'une présentation minimale qui la fonde et qui la rend possible. L'œuvre n'est-elle qu'à paraître une fois au moins, qu'à se proposer, fût-ce fugacement, qu'à s'adresser en tant qu'objet partageable, concrétisé minimalement par la verbalisation de sa potentialité. Les œuvres de Levet attestent cet axiome. En effet, virtuelles et irréalisées pour la plupart, elles doivent leur existence à titre de potentialité aux descriptions que leur concepteur en donne et qu'il compile dans une entité matérielle, en l'occurrence, un livre imprimé traditionnel. Ce livre, que j'ai oublié d'amener, désolé, il est resté en Belgique, même s'il arrive accessoirement que la disposition typographique y fasse image, n'intègre aucun schéma, aucun dessin, aucune image photographique ou autre. Tout y est langage, et le photographique, s'il s'y inscrit bel et bien, ne prend place qu'in absentia, comme virtualité, au sein d'un objet qui, par nature, accentue encore l'abstraction inhérente aux écritures alphabétiques, puisque, je cite Jean-Jacques Wunenberger, puisque la signification s'y trouve étalée dans une mise en page standardisée, vidée de toute matérialité, la page blanche ne servant plus qu'à faire voir des signes à l'état pur, les rendant disponibles pour une lecture et une compréhension sans aucune imagerie ni composante sensorielle. Je passe au point suivant. N'en déplaise à Levet lui-même qui affirmait en novembre 2006 le cloisonnement de ses deux activités de prédilection, je le cite, « j'ai deux activités, je porte un jean et j'aime la choucroute », n'en déplaise à Levet, donc, le désir de faire image imprègne ses écrits, et tout particulièrement celui dont il est question ici. De fait, les œuvres ne racontent rien. Expurgées autant que faire se peut des tentations de la narrativité, et tirant pleinement parti de ce que Bernard Vouilloux appelle la production imageante inhérente à la lecture, elles composent, dans une langue se voulant la plus neutre possible, un répertoire de séquences descriptives qui, à l'inverse de l'ekphrasis relevant prioritairement d'une fonction dite esthétique, accorde la priorité à la fonction de représentation. C'est le rapport au référent qui prime ici, même si celui-ci, ce référent, pour la plupart des œuvres que Levet imagine, n'existe qu'à titre de projet. De ce point de vue, Levet en convient, l'écriture conjure l'absence en même temps qu'elle la creuse. L'écriture révèle un manque, dans ce cas, l'écriture comble un manque, elle réalise les choses virtuellement à défaut de pouvoir le faire physiquement. Pour le dire autrement, le texte décrit donc platement ce que dénoteraient les œuvres si d'aventure elles étaient créées, et certaines, donc je l'ai dit, le seront. La tentation photographique ne s'inscrit donc dans l'écrit que secondairement, comme modulation d'une pratique langagière impersonnelle et descriptive qui, en les dépeignant, s'applique à faire voir 533 objets d'art possibles dont 109 mobilisent le paradigme photographique. Alors ce paradigme photographique, il intervient dans ces 109 œuvres de différentes façons, tantôt comme moyen, tantôt comme fin. Nombreux et variés, les usages que Levet promet aux techniques photographiques dans ses œuvres laissent toutefois émerger certaines préférences procédurales qui se manifestent par leur récurrence et ou leur impact sur la poétique de l'image que Levet adopte parallèlement dans son travail de photographe. On va en retenir deux de ces préférences procédurales. Premièrement, les œuvres, de manière répétée, font intervenir la photographie, non prioritairement comme épreuve du réel, mais bien comme pourvoyeuse d'une image modèle ou d'un simple maillon dans des chaînes d'opérations de transfert ou de traduction intersémiotique ou intermédiale qui s'amusent à multiplier les médiations, les intermédiaires. Exemplaire de ce procédé, les deux œuvres que j'ai reprises sur le PowerPoint. Par exemple, l'œuvre 418, une tapisserie de 2 mètres sur 2 est tissée d'après une photographie de Raymond Roussel, prise en 1996. Raymond Roussel est mort en 1933. L'homme dont on voit le visage est architecte. Il vit à Paris. C'est un homonyme de l'écrivain. Tapisserie et photographie dupliquent une image préexistante, carton pour l'une, négatif pour l'autre. Ces images intermédiaires sont des copies. Le carton reproduit un tableau, le négatif, le réel. La tapisserie représentant Raymond Roussel est le double tapisserie d'un double carton réalisé à partir d'un double tirage photographique d'un double, le négatif, représentant un double, l'homonyme de l'écrivain. Alors voilà pour le premier principe formel. Un second principe formel, exploité maintes fois par les œuvres, va nouer avec le travail de photographe de Levet une relation d'analogie évidente. Ce principe, celui de la reconstitution, mobilisé par exemple dans les entrées 341 et 516, que j'ai reproduites ici, détermine en effet le protocole matriciel des fictions, des transferts et des séries qui vont composer l'ouvrage Reconstitution. Donc on voit toute l'importance de ce procédé dans l'œuvre de photographe d'Edouard Levet. Alors que faut-il entendre par reconstitution ? Dans l'interview de lui-même qu'Édouard Levé réalise à l'occasion de la publication de son ouvrage « Reconstitution », il va préciser que ces reconstitutions sont, et je le cite, « des mises en scène dans lesquelles je demande à des modèles de rejouer des situations inspirées d'images préexistantes ». Emblématique de ce courant majeur de la photographie contemporaine qui s'attache à produire ce que Michel Poivert appelle des images performées, ces reconstitutions dévoilent l'affinité profonde qui unit la démarche de l'écrivain et celle du photographe. Effectivement, d'une activité à l'autre, la poétique mise en œuvre convoque les mêmes réflexes, rejet du spectaculaire, décontextualisation, dédramatisation et neutralisation de l'anecdote, évacuation de l'expressivité et des rapports logiques, tension vers l'objectivité. Quelques années avant de décréter subitement l'incommensurabilité du port du djinn avec son inclination pour la choucroute, Levé lui-même reconnaissait d'ailleurs ce rapport de continuité. En photographie, je prends un sujet concret que je traite en le reconstituant de manière abstraite, c'est une abstraction descriptive, en simplifiant l'image, je la rends ultra lisible. Dans l'écriture, c'est le contraire, je décris précisément des choses qui n'existent pas, des œuvres dont j'ai eu l'idée mais que je n'ai pas réalisées. Et pourtant, c'est là que ça m'intéresse, pourtant, il y a une ressemblance. Mon écriture est blanche, ma photographie est neutre, je gomme tout ce qui dépasse pour obtenir une forme aussi simple que possible, je m'arrête de simplifier lorsqu'ajouter un coup de gomme ferait disparaître le très minimum. Jusqu'à un certain point, je postule que moins l'auteur en dit, plus le lecteur imagine. Une fois mené à son terme, ce processus de simplification aboutit donc à des objets, écrits ou photographiques, curieusement lisses, c'est-à-dire expurgés de toute aspérité, de ces effets de pan, dirait Georges Didier Huberman, de ces saillies auxquelles on assigne, traditionnellement, la responsabilité de ménager l'irruption de la présence au cœur même de la représentation. Je passe au point suivant. De la même manière que la plupart des propositions constituant les œuvres visent des référents absents, les photographies que certaines de ces propositions imaginent renvoient à une image préalable et non directement au réel. Leur ambition n'est donc plus de saisir l'événement, ni d'en recueillir les preuves. C'est pourquoi elles rompent avec l'idéal photojournalistique de révélation du réel par arrêt sur image et avec les valorisations théoriques du paradigme indiciel, pour délivrer, en creux, un discours critique remettant en cause l'aptitude de l'image photographique à rendre compte de quoi que ce soit d'antérieur à tout infléchissement symbolique. Ainsi, sans se revendiquer engagé, Levé ne nie pas la portée contestataire de la photographie qu'il pratique. Je le cite, « J'assume le potentiel critique de mes images et il ne me déplaît pas que l'on puisse en faire une lecture politique. Si je devais m'engager, ce serait contre la lobotomie visuelle. » Lobotomie visuelle. Par l'entremise de ce syntagme, le travail de Levé s'inscrit dans le sillage d'une tradition critique qui condamne de façon virulente la prolifération des images. Dans l'entretien qu'il accorde en 2003 à Mathilde Villeneuve, l'auteur de Suicide joint ainsi sa voix au concert de lamentation aujourd'hui prompt à pleurer, ce que Georges Didier Huberman appelait notre propre monde repu, presque étouffé de marchandises imaginaires. Alors, j'ai repris la citation d'Édouard Levé. La prolifération des images nous rend inattentifs à ce que nous regardons. C'est une remarque banale, mais je me la fais quotidiennement en feuilletant le journal. Combien de temps passes-tu à regarder l'image du corps d'un Palestinien assassiné ? 3, 5, allez, 10 secondes. Le système informatif contemporain contraint à cette forme d'irrespect de l'autre. Il serait absurde et beau de passer une demi-heure devant chaque photo d'une personne morte, à penser à ce que fut sa vie et à lui rendre hommage à notre manière. C'est impossible, nous n'avons pas le temps ou nous ne le prenons pas. L'abondance et la vitesse nuisent à l'attention, donc à l'information. Le drame de l'image de presse, c'est sa prolifération. Elle se banalise, nous y devenons insensibles. Dans mes reconstitutions, je cherche par l'ambivalence sémiologique à redevenir curieux à l'égard des images. Il ne s'agit pas d'anéantir le sens, mais d'en retrouver l'appétit. La prolifération des images entraînerait donc leur banalisation et la neutralisation de leur potentiel traumatique. Phénomène accréditant le portrait pessimiste d'une époque qui, acquise à ce que Bouniou appelle la surinformation, vouerait les individus à l'insensibilité en procédant à l'anesthésie de leurs facultés empathiques. Levé prend acte de ce discours ambiant et le relaie, en concevant, ce qu'il appelle des photographies au carré, c'est-à-dire des images neutralisées qui s'appliquent à enfouir leur point d'appui dans le réel, insistant ainsi, à l'heure de l'abondance imaginaire, sur une forme d'archi-écriture du visible. Tout se passe donc comme si l'actuelle surproduction visuelle justifiait le désaveu que Levé oppose aux prétentions indicielles de l'image photographique en révélant comme fallacieuse la teneur en présence dont cette image se revendique coutumièrement. Le vœu renoue, ce faisant, avec un motif philosophique vieux comme le monde. Inaccessible en soi, le réel ne se caractériserait que par son retrait. Il ne se laisserait saisir qu'à distance, moyennant la nécessaire interposition d'une entité, le sujet, qui viendrait le constituer et l'investir comme objet de conscience. En conséquence, toute photographie serait immanquablement représentation, mise en scène, fiction, du titre du dernier recueil de photographies d'Édouard Levé, fiction, c'est-à-dire étymologiquement, produit d'une manipulation, objet façonné par le regard d'une instance dont les intentions se dérobent. Derrière ce développement se dessine une filiation de pensée qui, de Platon à Guy Debord et à Jean Baudrillard, accuse l'image, entendue comme eidolon, comme simulacre, d'amoindrir le vécu en le dupliquant ad nauseam. Tout ne serait alors qu'image, jeu de reflets et diffraction des apparences, comme le dit Laurent Laveau. On assiste ainsi fréquemment à la réactualisation, par le contemporain, de thèmes iconoclastes comme ceux de la propagande et du conditionnement invisible, du consentement fabriqué, du contrôle et de la répression des imaginaires, et enfin, de la réduction policière, voire totalitaire, des possibles, visibles, dissibles et pensables. À cet égard, on peut donc percevoir le travail de Levé comme s'inscrivant, et je cite Pascal Mougin, comme s'inscrivant assez classiquement dans une critique du spectacle, plus exactement dans une critique de la codification du réel, de sa scénarisation et de sa scénographisation en vue de sa représentation médiatique, dans une critique du réel comme prétexte à image. Par exemple, il ne reste dans les reconstitutions que des postures, des gestes figés, des corps dépourvus de visages, les visages qui sont systématiquement dissimulés ou privés d'expression, bref, expurgés de leur altérité. Il ne reste donc dans ces photographies, dans ces reconstitutions, que des corps hiéroglyphes dont le mouvement interrompu révèle des chorégraphies, autrement dit, des corps prétextes qui servent de support à l'écriture d'un texte particulier et contraignant secrètement les individus. Ce texte serait celui des complexes de gestes, des protocoles et des archétypes qui président aux interactions sociales. Alors j'aborde mon dernier point, mon point de conclusion. Mais à nouveau, se satisfaire d'une telle lecture méconnaît le principal. L'horizon de sens antispectaculaire, en effet, comme celui projeté par le conceptualisme, passe sous silence un paradoxe qu'il importe de prendre en compte, sous peine de manquer ce qui contribue à l'originalité de la démarche d'Édouard Levé. Certes, si l'on en croit autoportrait, images et écritures détournent de l'existence et dispensent de prendre part au sensible. Je cite Levé, « Je fais des photographies parce que je n'ai pas vraiment envie de changer les choses et j'écris peut-être ce livre pour ne plus avoir à parler. » On retrouve là un motif assez fréquent que Debord formalise de la manière suivante dans les commentaires sur la société du spectacle. Il dit ceci, « Plus le spectateur contemple, moins il vit. » Mais pourquoi dès lors dédier sa vie à des pratiques qui lui nuisent en l'affaiblissant jusqu'au suicide? Peut-être faut-il, pour entendre cette contradiction, réinscrire dans son époque la démarche de Levé, photographe et écrivain, car il ne s'en tient pas au seul débat axiologique. Au-delà de la question de sa valeur, il se confronte également et surtout, comme beaucoup d'autres, à la nature de l'image, à son fonctionnement en tant qu'opération esthétique particulière et à sa place dans le projet de mise au point d'une traductibilité sans reste qu'il poursuit. À l'heure où les pratiques artistiques contemporaines évoluent au rythme de ce que Jacques Rancière a appelé le régime esthétique de l'art, on assiste à une déhiérarchisation des genres, des sujets et des formes, en même temps qu'à l'émergence d'un principe d'hétérogénéité se substituant aux règles, quelles qu'elles soient. C'est ce que Rancière a appelé la grande parataxe, ses brassages indifférents et sa loi d'équivalence des modes d'expression. À l'encontre de l'orthodoxie lessingienne qui opposait les arts du temps à ceux de l'espace et qui définissait leurs territoires respectifs, le régime esthétique de l'art prône, nous dit Rancière, le sans-mesure du mélange, qui offre à chaque œuvre la possibilité de penser à nouveaux frais, singulièrement l'articulation des pratiques, ou mieux, leur juxtaposition. C'est avec ces données que Levé compose dans son travail, qui vise, en ce qui concerne les œuvres, à donner au visible un équivalent verbal. Je le cite, je me méfie des textes intraduisibles, avançait dans Autoportrait celui qui aspirait aussi, on l'a rappelé précédemment, à écrire dans une langue inaltérable par la traduction. Levé s'avoue ainsi en quête d'un principe de réversibilité absolue qui lui permettrait, je cite Rancière, de faire passer l'image dans le mot dans la touche dans la vibration de la lumière ou du mouvement. Dans les œuvres, la recherche de Levé en passe non par l'hybridation matérielle, mais par la lente élaboration d'une écriture blanche, appelant à la transposition en même temps qu'elle imagine des manières de faire jouant de la transposition. Ce faisant, Levé insiste non sur les discontinuités et l'irréductibilité foncière du lisible et du visible, mais bien sur leurs racines communes. Comme le rappelle Jacques Rancière, la représentation n'est pas l'acte de produire une forme visible, elle est l'acte de donner un équivalent, ce que la parole fait tout autant que la photographie. L'image n'est pas le double d'une chose, elle est un jeu complexe de relations entre le visible et l'invisible, le visible et la parole, le dit et le non-dit. En amont de toute narration, on l'a dit, le V produit donc des fictions, des objets façonnés, codifiés, absolument lisibles et ouverts à la transposition, où le studium, si l'on veut, éclipse totalement le punctum. Des fictions, ou pour le dire comme Rancière, des réagencements matériels, des signes et des images, des rapports entre ce qu'on voit et ce qu'on dit, entre ce qu'on fait et ce qu'on peut faire. La littérature doit, dans cette configuration particulière, abandonner toute prétention à un statut privilégié. Quasiment ancillaire, elle ne fait que prendre place, au même titre que l'image, dans une chaîne d'opérations réversibles, moyen plutôt que fin, document transitoire ouvrant sur autre chose que lui-même. Les œuvres se parcourent ainsi comme un outil de travail, un répertoire enjoignant à la lecture tabulaire, à rebours de l'idéal platonicien du texte assimilé à l'ensemble hiérarchisé d'un corps. Quant à Autoportrait, il rend compte de cette traductibilité comme nul autre texte de son auteur. Transposé en allemand, en anglais, en norvégien, en suédois et en espagnol, il a également donné lieu à une transcription interactive sur Internet et à une adaptation théâtrale. Alors que la littérature contemporaine s'efforce de plus en plus de sortir du livre, qu'on soupçonne parfois, au même titre que l'image, de relayer le fétichisme marchand des sociétés hypercapitalistes, Levé persiste à produire l'un et l'autre, mais pour les remettre en cause, pour questionner les usages et la valeur qu'on leur assigne traditionnellement, le livre comme totalité organisée, génériquement identifiable, et l'image comme empreinte du réel. Merci pour votre attention.
Pour cette réflexion plus que complexe sur le rapport absolument.